Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, nous sommes encore dans le temps pascal, le temps de la joie et de la compréhension de cette résurrection qui nous dépasse infiniment. Et le Seigneur, ici, il nous est donné à un moment où le Seigneur prépare ses disciples à son ascension au ciel et à la venue de l'Esprit-Saint. Alors, ce sont les deux points que je vais rapidement examiner. Le Christ qui va au Père et le Saint-Esprit venu en ce monde. Tout d'abord, le Christ va à son Père, il ne faut pas s'en étonner, et même si certainement les disciples auraient aimé à garder le Seigneur un peu, mais vous savez que le Christ ressuscité n'est pas venu revivre avec ses disciples, simplement il leur est apparu, ce qui n'est pas la même chose. Il s'est donné à voir, il n'a pas revécu une vie humaine. Alors de toute façon, il leur annonce qu'il s'en va vers le Père, c'est ce pourquoi il est venu, c'était le but de son incarnation, c'est-à-dire venir en ce monde, prendre chair humaine, être vraiment homme, mourir pour briser ce lien affreux de la chair et du monde qui retenait les hommes, pécheurs et justes, dans les liens de la mort, et leur ouvrir un passage vers le ciel. Il faut qu'il termine son travail, si je puis dire vulgairement. Il faut qu'il accomplisse son dessein. Il faut qu'il remonte avec son Père. Il faut qu'il remonte en lui avec son corps et son âme, avec sa divinité et son humanité. Songez qu'il y a maintenant dans le ciel un corps humain déjà ressuscité, entier, pas seulement un pur esprit, mais un esprit qui a assumé complètement sa création, le corps d'un homme. Voilà ce que le Seigneur est venu réaliser et il informe ses disciples qu'il va aller jusqu'au bout de son dessein. Cette vérité est dure à recevoir pour le monde. Elle l'a été du temps du Christ. Songez à l'extraordinaire phrase de Pilate, la plus incroyable des répliques qui sera donnée à notre Seigneur sur terre, qui lui dit être venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est lui, la vérité même, l'être même, Dieu lui-même. Et Pilate, représentant les hommes de ce monde dans leur ignorance et leur crétinerie jusqu'à la fin des temps, lui répond « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et oui, mes bien chers frères, à chaque fois que nous tentons d'annoncer au monde cette vérité, la réalité d'un Dieu qui nous a créés, sauvés et qui va nous assumer dans un jugement final, eh bien, il ne se manque pas de rencontrer encore des petits-fils, des descendants spirituels de Pilate pour nous dire « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et oui, s'il y a une vérité, cela dérange profondément les petites habitudes des uns et des autres. Il faut s'y conformer. S'il n'y a pas de vérité, alors je peux errer et bagnauder jusqu'à la fin du monde comme un abruti, sans aucune condamnation possible, puisqu'il n'y a pas de vérité. Et c'est le parti que prennent beaucoup des gens de ce monde, des plus intelligents, on appelle ça le relativisme philosophique, aux plus idiots, ceux qui ne pensent pas. Voilà, nous voulons être les témoins de ce monde, les témoins dans ce monde, pardon, de la vérité. Oui, il y a une vérité intangible, aut Christus, aut nihil, et nous ne voulons pas passer à côté de cette vérité à partir de laquelle nous organisons notre vie, car nous allons vers elle, et nous ne voulons pas la rater. Cet Esprit Saint qui est promis aux disciples, c'est la promesse de cet Esprit qui vient discerner dans le monde afin d'amener le monde à Dieu, c'est-à-dire à la vérité même, le vrai, le beau, l'être de Dieu. C'est une seule et même chose, ce sont des compréhensions de Dieu, les transcendentaux, qui touchent l'être de Dieu. Voilà ce que le Christ vient d'expliquer à ses disciples. Il termine sa mission, elle est vraie, et ça sera même le critère de discernement dans le monde de toutes choses. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, nous organisons notre vie en vue de Dieu. Voilà pourquoi, tout simplement, vous organisez vos dimanches en y prévoyant la Sainte Messe. Voilà pourquoi vous organisez vos vacances en pensant où vous irez célébrer avec votre famille les saints mystères pour pouvoir y assister pieusement, où vous irez dans votre vie travailler, etc., etc. Car nous savons que toute notre vie est ordonnée à sa fin, et c'est ça son extraordinaire noblesse, c'est qu'il n'y a pas un acte de notre vie qui ne soit ordonné. Comme le dit saint Paul, nous ne sommes pas des insensés, nous savons où nous allons, il y a un sens dans notre vie. Voilà pour ce point, le Christ qui remonte vers son Père et qui prépare ses disciples. Et il nous promet la venue de l'Esprit-Saint en ce monde. C'est-à-dire pas seulement sur ce monde, pas seulement pour nous sauver comme ça, mais vraiment comme le Christ est venu en ce monde, l'Esprit-Saint vient dans ce monde, est infusé dans nos âmes pour que nous soyons sauvés. Mais en même temps, évidemment, il y a un discernement qui est opéré, c'est la confusion de ce monde. Et le Seigneur nous a prévenus. Il viendra et il confondra ce monde de péché, de justice et de jugement. Il confondra ce monde de péché, car l'exposé du bien va avec la condamnation du mal. En proclamant le bien, eh bien, par ombre, en quelque sorte, nous voyons apparaître le mal. Partout où le bien ne peut être promu, c'est le mal qui existe. Ne vous y fiez pas, mes bien chers frères, ne croyez pas qu'il s'agit d'un combat spirituel, hypothétique, rêvé, ou pour le temps d'une méditation. Non, plutôt c'est oui pour le temps d'une méditation. C'est un combat d'une réalité poignante, et encore aujourd'hui et toujours, nous aurons à empoigner ce monde pour dénoncer le péché si vraiment nous vivons de l'Esprit-Saint. Je ne peux pas ne pas penser à cet homme qui n'est pas en fin de vie, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, parce que ça fait 9 ans, ça fait longtemps qu'il est en fin de vie, et il n'a aucun respirateur, aucune chose extérieur pour le faire vivre. Cet homme est handicapé, il est forcément dans un état difficile et malheureux, et ce monde ne veut pas le voir. Pourquoi ? Tout simplement, ce monde refuse la vérité essentielle, c'est que la valeur d'un homme, c'est qu'il ait été créé, qu'il ait une âme, et que Dieu le soutienne. Il n'y a pas d'autre raison. Si nous établissons un autre critère pour la vie, alors, à chacun son critère, à chacun sa décision. Ce monde sera confondu de péché si nous ne pouvons y promulguer le bien, c'est-à-dire la protection de la vie, de son début jusqu'à sa fin. Voilà, ce monde sera encore confondu de justice, car la justice de Dieu, c'est de nous rendre justes, et tout le monde peut être rendu juste autant qu'il en accepte les conséquences, c'est-à-dire l'ordinatio vitae, l'ordonnancement de sa vie à cette justice. Enfin, le Saint-Esprit confondra ce monde de jugement, car il est déjà jugé le prince de ce monde. C'est dans notre conscience que se joue ce combat intérieur qui nous permettra de nous placer sous l'étendard du bon capitaine. Je voudrais finir en évoquant ce bon capitaine, ce ne sont pas mes mots, peut-être les connaissez-vous, ce sont ceux de saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels. Il nous demande de voir qu'il y a un combat eschatologique, spirituel, qui se poursuit jusqu'à la fin du monde. Et sachant cela, il demande de contempler la connaissance et les tromperies du mauvais chef pour m'aider à m'en garder, ainsi que la connaissance de la vraie vie qu'enseigne le souverain et vrai capitaine, le Christ notre Seigneur, et la grâce de l'imiter. Oui, mes bien chers frères, ce combat se poursuit à l'intérieur même de mon âme, à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, lapsus, les deux. De toute façon, ce combat est d'abord intérieur pour qu'il puisse rejaillir dans ma vie. Intérieur veut dire qu'il m'est propre, qu'il m'est personnel et qu'il aura des conséquences à l'extérieur, dans ma paroisse, dans ma famille, auprès de mes amis, de mon travail, de ceux que je fréquente. Mes dispositions intérieures déterminent mes actes extérieurs qui détermineront le combat que je vais mener. Acte après acte, décision de conscience après décision de conscience, vous formez votre vie éternelle. Il ne s'agit pas d'attendre la vie éternelle de manière quiète et inactive, il s'agit de réaliser en ce monde l'appel que nous recevons de Dieu d'aller vers lui. Chaque acte que nous poserons ne sera pas perdu. Chaque acte que nous poserons sera retenu dans l'éternité s'il est bon. Voilà ce qui subsistera. J'espère, mes bien chers frères, que nous aurons lourd à présenter au jour du jugement, car il y en a qui ne pèseront pas lourd, pas plus lourd qu'un faux raisonnement, qu'un refus de la vérité. Nous serons peut-être les derniers, c'est le pape Benoît XVI qui le prédisait, les chrétiens, les détenteurs de la foi, seront peut-être les derniers à croire à l'intelligence humaine et à la puissance de la raison qui est conforme à la nature. Eh bien, si nous sommes les derniers, nous serons les premiers dans le royaume des cieux, car nous voulons vivre non pas de fausseté, mais vraiment et réellement, maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il.